BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui tente d'enrichir vos après-midi tout en vous enrichissant. Bienvenue à tous. On avance ensemble en effet au rythme des marchés pour évoquer l'ensemble de vos investissements, le potentiel de vos placements. Le CAC 40 en ce moment est en repli pour entamer cette nouvelle semaine. Moins 0,5% en repli dans le sillage de Wall Street qui a aussi ouvert plutôt en repli après la semaine dernière qui était plutôt flamboyante en bourse. Quelques prises de bénéfices donc aujourd'hui à l'approche également de la fin du trimestre, la fin du semestre même. Des arbitrages techniques sans doute amenés à monter en puissance d'ici à la dernière séance prévue après-demain. La dernière séance du semestre, bien évidemment. On va en parler, bien sûr, avec nos experts. On vous dira quelle valeur pour la suite privilégiée sur les marchés financiers. Les produits gagnants aussi face à l'inflation, les placements gagnants. Nos experts vous apporteront leurs idées jusqu'à 18h. Et puis, on parlera aussi tout à l'heure de diversification à travers l'investissement responsable. Notre portefeuille BFM Responsable, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et on verra d'ailleurs sur les propos des patrons d'Engie, Total Energy et EDF qui appellent à une modération, à une baisse de la consommation d'énergie en France, une baisse massive. C'est assez inattendu de voir les patrons des trois majors françaises de l'énergie prêts à sacrifier une partie de leur chiffre d'affaires. On vous dira comment analyser cet appel des patrons de Total Energy, Engie et EDF. Ce sera dans une vingtaine de minutes, donc, avec nos experts de l'investissement socialement responsable. Et puis les NFT aussi à la une. Le club BFM Crypto tout à l'heure. Vous allez voir que dans l'univers des NFT aussi, on est en train en ce moment de faire le tri entre les bons et les mauvais projets. Certains NFT voient leur valorisation ne pas trop souffrir de la chute des crypto-actifs. On vous dira quels profils de NFT sont en train de profiter des difficultés du secteur. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pour encore quasiment 2 heures. C'est parti.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et notre liaison, notre vol quotidien Paris-New York. Dans un instant, on sera à New York. On va rejoindre Grégory Volokhin. Vous l'apercevez d'ores et déjà si vous nous suivez à la télévision. Bonjour Grégory, on est ravis de vous retrouver depuis Manhattan. On vous retrouvera plus intensément dans un instant, juste après un détour par la tour Euronext et Aude Kersulek qui nous accompagne. Bonjour, rebonjour Aude. Les marchés européens sont toujours en baisse.
Et oui, hein, après le gain hebdomadaire de plus de 3% la semaine dernière, ce lundi est un tantinet plus difficile. Le rouge s'affirme hein, même. C'est une perte maintenant de 0,3%, 6055 points. Et on perd un petit peu plus de terrain depuis l'ouverture de Wall Street, qui est en plus ouvert dans le rouge quand on espérait un petit peu de positif. Alors, dans tout ça, il y a des inquiétudes sur la croissance mondiale. Il y a aussi une attente vis-à-vis des banquiers centraux qui se réunissent à partir de ce soir à Sintra au Portugal, même si les grosses journées, ce sera demain et après-demain. Et surtout, Christine Lagarde, Jérôme Powell et Andrew Bailey seront tous les trois réunis. Puis on attendra des petits indices hein, sur les rythmes de relèvement de taux. En attendant, sur les indices, bon, ce n'est pas une journée très active. On n'a pas de gros volumes. On a Alstom et Capgemini qui se chamaillent la première place de l'indice parisien. Plus 1,9% pour Alstom, plus 1,7% pour Capgemini. Donc on n'est pas non plus sur des grosses variations. Du côté, on a l'industrie aussi qui performe assez bien avec Renault qui prend 1,8%, l'automobile, les équipementiers aussi parce que Faurecia a vu sa recommandation d'achat par Jefferies relevée, hein, à achat justement, Faurecia qui prend 3,8% à 20,04€. Et puis on a Valeo qui n'est pas non plus très très loin, hein, près de 2,5% de progression à 19,27€. Du côté des baisses, on a Bouygues qui perd plus de 2%, AXA aussi 2%, et on a aussi Essilor Luxottica qui perd 1,5%. Alors là, avec une triste nouvelle venue de Milan, c'est la mort de Leonardo Del Vecchio, qui est un actionnaire de référence hein, d'Essilor Luxottica, puisqu'il possède plus de 30% du capital. C'était surtout la deuxième grande fortune d'Italie, un ponte du capitalisme italien. Et puis il possédait aussi des participations dans d'autres grandes entreprises italiennes, comme la banque d'affaires Mediobanca ou encore l'assureur Generali. Et là, ce sont des valeurs qui perdent plus de 2,5% à la bourse de Milan.
Puis, voilà, avec le micro. Et puis, donc, Aude, les autres secteurs à surveiller aujourd'hui, vous avez repéré notamment le secteur pharmaceutique, Valneva, à nouveau à surveiller, ainsi qu'Ipsen.
Oui, voilà, ça bouge un peu du côté pharma, effectivement. Ipsen, c'est la plus forte baisse du SBF aujourd'hui. Ipsen perd plus de 3% à 84,95 €. Ipsen a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Epizyme. Alors, c'est une biotech spécialisée dans l'oncologie, une activité qu'Ipsen ne connaît pas très bien, mais depuis quelques mois, la stratégie d'Ipsen, eh bien, c'est de racheter, d'élargir son portefeuille de médicaments innovants et à forte valeur ajoutée. Et là, Ipsen nous le montre bien avec cette acquisition, donc à 234 millions d'euros. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas vraiment applaudi par le marché. Hein. C'est le cas de, c'est le moins qu'on puisse dire, avec plus de 3% de baisse donc pour Ipsen. Et puis, une autre baisse, parce que ça s'est retourné du côté de Valneva. Elle était positive tout à l'heure. Elle perd maintenant 0,6% à 12,57 €. Valneva qui a annoncé vendredi soir avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre la Covid. Autorisation donnée par l'Union européenne. C'était attendu. C'était un parcours semé d'embûches avec beaucoup de retournements. Mais là, maintenant, c'est autorisé. Il faudra voir, bien sûr, ce qu'il en est des commandes des différents pays. En tout cas, pour l'instant, Valneva est finalement assez stable. Après, ce qu'elle nous a habitué à beaucoup plus de variations ces dernières semaines. Moins 0,6%, 12,57 €. Elle perd quand même quasiment 45% depuis le début de l'année.
Boum. Merci, Aude. Vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée. On vous retrouvera à la clôture des marchés en direct. Le CAC 40 perd 0,4%. Andrea Touheny nous accompagne. Bonjour, Andrea, depuis Saxo Bank. Voilà, voilà, on peut résumer les choses ainsi. On avait bien progressé la semaine dernière. Aujourd'hui, on marque une pause. Avant, en plus, Andrea, c'est vrai, une semaine qui s'annonce très riche en indicateurs. On y verra à nouveau plus clair sur la dynamique d'inflation. Beaucoup d'indicateurs d'inflation attendus, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis ces prochains jours.
Oui, c'est vrai, c'est encore une semaine chargée qui nous attend. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que bon, malgré tout, même si les indicateurs de volatilité ne sont pas au plus haut, on a quand même un peu de volatilité aujourd'hui. On avait 1,3% de hausse au mieux pour le CAC ce matin. Donc on continue un petit peu sur la même dynamique que celle qu'on a connue en fin de semaine dernière. Et puis là, on repasse dans le rouge, on perd 0,5% avec Wall Street aussi qui connaît une ouverture un petit peu plus compliquée que ce qu'on aurait pu espérer. Et c'est vrai que cette dynamique insufflée un petit peu en fin de semaine dernière avec notamment ces projections d'inflation, hein, l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui avait rassuré et positivement, en tout cas, ou qui avait surpris positivement plutôt les marchés. Bon, pour le moment, on attend d'en savoir un petit peu plus et c'est vrai que ça ne suffit pas à la poursuite de ce rebond, en tout cas, entamé la semaine dernière. Donc, il va être dans tous les cas mis à l'épreuve par en effet les banquiers centraux lors de cette réunion de Sintra. Ça va être mis aussi à l'épreuve par des nouvelles données macroéconomiques, notamment l'indice Core PCE qui est, on sait, à la mesure de l'inflation la plus importante qui est observée par la Fed. Donc il va y avoir encore plusieurs éléments tout au long de la semaine qui vont venir mettre peut-être à mal ce rebond du marché. Il y a aussi un aspect technique, on est en fin de semestre, il va y avoir des arbitrages de portefeuille, des réajustements, des mouvements du coup qui peuvent justifier des changements techniques sur le marché. Donc ça aussi, il faut voir, ça peut, ces réajustements de portefeuille, ces arbitrages qu'on peut avoir, ça peut être un motif potentiellement d'espoir de rebond sur le marché. Mais après, c'est vrai qu'on est toujours dans cette même dynamique, on y était déjà il y a quelques semaines. Est-ce qu'on peut entrer dans une phase de rebond durable ou est-ce qu'on est uniquement dans des phases de rebond technique qui sont très court terme? La cassure des 6100 points, c'est un premier signal un peu négatif pour espérer un rebond durable, mais bon, le marché peut encore tenir. On a une zone de support autour des 6035 qu'on a quasiment testé. Et il faudra voir en dessous. C'est vrai que si on cassait les 6000 points et si on revenait autour des 5970, ça serait un premier signal négatif. Donc à voir encore une fois sur quel niveau technique le marché arrive à se maintenir. Est-ce qu'on arrive à repasser assez rapidement au-dessus des 6100 pour en tout cas garder l'espoir d'un rebond à plus long terme jusqu'à la fin de la semaine. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a un marché qui reste encore fragile et qui peut être sujet à des mouvements erratiques comme on le voit depuis l'ouverture ce matin.
Andrea Touheny en direct depuis les bureaux de Saxo Bank. Merci Andrea, bonne fin de séance. Il reste 1h20 de cotation en Europe, le CAC 40 perd 0,5%. Il recule un peu plus que l'Eurostock 50 d'ailleurs. Un autre CAC 40 avec Bouygues en lanterne rouge, moins 2,3. Saint-Gobain aussi en forte baisse à nouveau. Saint-Gobain, c'est compliqué en ce moment pour cette valeur dont on reparlera tout à l'heure puisque Saint-Gobain fait partie de notre portefeuille BFM responsable aussi. On parlera des contre-performances actuelles de Saint-Gobain avec nos experts. Et puis à la hausse, Alstom, Renault aussi. On voit le secteur automobile qui tente un rebond après 4 semaines consécutives de repli sectoriel.
BFM Business, BFM Bourse, USA Today.
Et Grégory Volokhin est dans la place, lui aussi, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on est ravis de vous retrouver. On va suivre, on le disait, pas mal d'indicateurs encore cette semaine aux États-Unis, notamment des chiffres d'inflation, les prix à la consommation. On a déjà aujourd'hui des indicateurs sur l'activité économique américaine. Ces dernières semaines, à chaque fois que les indicateurs montraient un ralentissement, Wall Street s'en réjouissait en se disant que ça allait peut-être freiner l'inflation. Sauf qu'aujourd'hui, on a des chiffres plutôt supérieurs aux attentes, en tout cas, Grégory, pour ce qui concerne les commandes de biens durables.
C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, cette bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour les marchés. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces commandes de biens durables, on attendait 0,3% de hausse au mois de mai. On a eu 0,7. Ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que la hausse de ces commandes le mois dernier était de 0,4. Donc, entre avril et mai, les commandes de biens durables se sont accélérées. Et ça, ce n'était pas forcément attendu. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les chiffres qu'on a eus la semaine dernière et qui ont porté le marché, qui étaient des mauvais chiffres macroéconomiques et surtout des chiffres, en gros, qui mesuraient la température des investisseurs, puisqu'il y avait la négativité des consommateurs, ben, ces chiffres, c'était des chiffres du mois de juin. Donc, plus récents les chiffres de la semaine dernière qui ont porté le marché que les chiffres d'aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on peut dire vraiment. Il faut attendre, comme on le disait, le PCE de cette semaine. Mais c'est vrai qu'en fait, l'économie américaine ne s'est pas du tout effondrée au mois de mai. Au contraire, il faudra voir si le mois de juin, c'est un ralentissement et jusqu'à quel point c'est un ralentissement important. En tout cas, là, le marché fait exactement le contraire de la semaine dernière. Mauvaise nouvelle, il monte. Bonne nouvelle, il baisse. La même chose pour les taux. Des taux en baisse, le marché monte. Des taux qui se retendent aujourd'hui, le marché baisse. Ça a l'air tout simple et en fait, c'est même pas si compliqué à regarder.
Les États-Unis qui, par ailleurs, continuent de digérer cette décision, ce choix de la Cour suprême américaine, revenant à interdire dans un certain nombre d'États le recours à l'avortement. Alors, on verra quel impact cela aura sur les élections de mi-terme aussi. C'est un enjeu global et électoral pour ces élections de mi-mandat à venir dans quelques mois, Grégory. Les entreprises aussi sont en train d'ajuster leur stratégie après cette décision la semaine dernière de la Cour suprême.
Oui, c'est extrêmement intéressant. Déjà, il y avait eu des fuites il y a quelques mois de cette décision. On savait que la Cour suprême allait annuler le droit à l'avortement. Sauf que les compagnies qui s'étaient déjà un peu préparées à ça, cette fois, elles vont assez fort dans ce qu'elles annoncent. Et on ne parle pas de petites compagnies. J'ai la liste sous les yeux. Il y en a plus de 60 déjà. Et les plus grosses, il y a Amazon, AT&T, Apple, Bank of America, Bloomberg, Goldman Sachs, Citigroup, etc., etc. Donc vraiment les grandes compagnies américaines. Or, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Ils annoncent en fait une chose très simple, c'est qu'ils vont payer le voyage pour leurs employés qui sont dans des États qui va interdire ou qui déjà interdit l'avortement. Ça veut dire que si vous êtes dans le Texas et que vous ne pouvez pas vous faire avorter et que vous travaillez par exemple pour AT&T, la compagnie va vous payer le voyage pour aller dans un autre État où là, l'avortement sera légal. Donc ça montre exactement la position là, à la fois des compagnies et aussi, disons, c'est une sorte de déclaration politique des compagnies. Alors payer le voyage, ce n'est pas rien. La moyenne de ce qu'articulent les compagnies, c'est 4 000 $. Donc ce n'est pas juste un geste en l'air. Vous avez par exemple 7 000 employés de AT&T au Texas. Il n'y en a pas 7 000 qui vont être enceintes et vouloir se faire avorter non plus. Mais 4 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent pour un voyage. Il faut savoir que l'avortement est remboursé évidemment par toutes les assurances. Et vous avez des compagnies qui vont même plus loin. Par exemple, Snap va payer jusqu'à 10 000 $ pour des employés qui veulent aller se faire avorter dans un État où c'est autorisé. Et attention, on parle d'avortement, mais on parle aussi de tas d'autres, je dirais, mesures médicales qui pourraient devenir interdites à cause de nouveaux jugements de la Cour suprême, comme par exemple l'administration d'hormones aux enfants. On pense ce qu'on en pense, mais en fait, là aussi, les compagnies insistent sur le fait que c'est pas seulement l'avortement. S'il y a des procédures médicales qui deviennent impossibles à cause d'une décision de la Cour suprême, elles aideront leurs employés à pouvoir avoir ces bénéfices médicaux.
Et voilà comment les compagnies sont en train d'ajuster leur stratégie après ce choix de la Cour suprême la semaine dernière. Dans l'univers des marchés, beaucoup, de plus en plus de monde suit l'évolution des cryptos, des cryptoactifs et les dégâts aussi dans cette finance d'un nouveau genre, d'un nouveau type. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes avec nos experts du club BFM Crypto. Mais ce qui nous frappe, Grégory, c'est que la finance traditionnelle tente de prendre sa revanche sur cette finance crypto. On voit par exemple Goldman Sachs levant ou en tout cas essayant de lever 2 milliards de dollars pour, pourquoi pas, reprendre certaines compagnies en difficulté. On pense par exemple à Celsius. Que veut faire Goldman Sachs dans cet univers crypto qui n'est pas son univers originel ?
Je ris un peu parce que Goldman Sachs, ils veulent toujours faire la même chose, ils veulent gagner de l'argent. Alors pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient en fait que dans le monde des cryptos, il y a beaucoup d'assets qui sont ou bien invendables pour le moment, ou qui sont alors franchement à des prix extrêmement avantageux. Alors, comment ils voient ça ? On a beaucoup parlé de Celsius, de la plateforme de trading. Celsius qui a arrêté de fonctionner, Celsius qui va peut-être se mettre en faillite. Ils ont quand même pour 11 milliards de dollars d'assets qu'ils possèdent. Et ils ne possèdent pas des bitcoins, parce que les bitcoins, Celsius, qu'est-ce qu'ils en faisaient, les bitcoins de leurs clients ? Ils les prêtaient. Donc, ils les prêtaient contre quoi ? Et c'est ça la question. Ils les prêtaient très souvent, tout simplement, contre des promesses ou des taux d'intérêt assez élevés sur des assets qui sont assez, assez diversifiés. Alors, par exemple, ils possédaient beaucoup, vous allez peut-être rire ou pas, mais beaucoup de serveurs d'ordinateurs, de miners. Parce que les miners ont besoin de se financer, donc ils payent des taux d'intérêt élevé pour emprunter. Ils empruntent auprès de Celsius. Celsius gagne des taux d'intérêt élevés qu'ils reversent à leurs clients, etc. Qu'est-ce que voit Goldman Sachs ? Ben, Goldman Sachs, il voit qu'en fait, en reprenant des assets de Celsius, ils vont pouvoir acheter peut-être, en prenant cet exemple tout simple, des serveurs pour 10% de leur coût. Ils vont pouvoir acheter peut-être aussi ce qu'on appelle du commercial paper, des dettes, mais avec une énorme décote. Alors, leur but n'est pas du tout de sauver Celsius. Leur but, c'est de ramasser à un très bon prix des assets que Celsius actuellement ne peut pas vendre. Parce que essayer en ce moment de vendre un serveur qui vaut 5 millions de dollars à une compagnie de crypto, la compagnie crypto vous dira, on a d'autres problèmes et d'autres soucis, on n'a pas l'argent. Goldman Sachs va arriver et ils essayent donc, c'est pas leur argent, ils essayent de lever des fonds de clients jusqu'à concurrence de 2 milliards de dollars pour trouver ces assets en difficulté à des tarifs ou à des coûts extrêmement bas.
Et voilà pourquoi Goldman Sachs s'intéresse à certains acteurs crypto en suivant la grammaire habituelle de Goldman Sachs, à savoir essayer de dégager des recettes là où il y a des affaires à réaliser. Grégory, on en parle peu sur les marchés parce que l'impact est faible, mais quand même, la Russie a fait défaut. Ça y est, la Russie fait défaut sur sa dette étrangère en devises. C'est une première depuis 1918, après en effet l'expiration hier du délai lié au versement d'un remboursement de 100 millions de dollars. La Russie n'a pas réussi à rembourser ces 100 millions de dollars et donc son premier défaut sur sa dette étrangère en devises depuis 1918. Pourtant, sur les marchés, pas d'impact. Comment l'expliquez-vous ?
Je dirais les commentaires, que ce soit chez vous ou chez nous, c'est que c'est en fait un défaut symbolique. Parce que premièrement, la Russie pourrait payer les intérêts de sa dette, il n'y a aucun problème pour eux. Ils pourraient payer aussi la dette quand elle arrive à expiration, ils ont l'argent pour ça, ils ont les dollars pour ça. Sauf que, évidemment, ils ne peuvent pas utiliser le circuit bancaire traditionnel et ces dollars ou ces roubles ou quoi que ce soit est bloqué et ne peuvent pas atterrir, je dirais, dans les comptes des clients qui voudraient toucher donc ces dividendes, par exemple. Pour le moment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'effet ? C'est parce qu'en fait, il y a un grand silence. Le grand silence, c'est par exemple des compagnies de notation qui ne disent rien. S&P Global, par exemple, n'a pas dit « Ah ben, la Russie est en défaut, on downgrade toutes leurs dettes, etc. » Pourquoi ? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas officiellement exercer ses droits si on a de la dette russe en défaut. Pourquoi ? Parce que les Russes, de toute façon, même s'ils peuvent payer, ils n'ont pas le droit de vous payer. Donc, exercer ses droits à un remboursement, c'est exercer ses droits à rien du tout. Et ça mettrait très longtemps. Donc, tout le monde espère que le défaut s'arrêtera au moment où l'aventure, par exemple, militaire de la Russie s'arrêtera. Haussement d'épaule. Et il y a aussi un haussement d'épaule, par exemple, sur l'interdiction des exportations d'or de la Russie. Ça a l'air d'être quelque chose d'énorme, parce que la Russie est quand même le troisième producteur d'or au monde. Sauf qu'on a regardé un tout petit peu, en tout cas j'ai regardé ce matin, qu'est-ce que les États-Unis importent comme or russe depuis le début de l'année 2021, c'est pas compliqué, 2022, ils ont importé pour 1 million de dollars, c'est absolument rien. Pourquoi c'est rien ? C'est parce qu'en fait, les États-Unis n'ont pas besoin d'or russe. développent des mines eux-mêmes, par exemple au Nevada. Le Nevada, c'est 75% de la production américaine d'or. Donc, ce million de dollars russe, on ne sait pas où il allait exactement, peut-être quelques bijoutiers, mais en fait, au niveau important des banques centrales, qui ont besoin d'acheter de l'or, qui font un commerce d'or absolument tout le temps pour leurs réserves, l'or russe, ça fait déjà quand même très longtemps qu'ils ne l'achètent plus, tout simplement, à cause de sanctions qui n'ont pas commencé aujourd'hui, mais qui ont commencé à partir du mois de mars. Donc là aussi, un haussement d'épaule, ce sont des déclarations, elles sont importantes, elles sont symboliques, et en fait, le symbole n'a pas vraiment d'effet économique.
Merci Grégory, votre décryptage quotidien sur BFM Business, sur l'actualité financière, et en l'occurrence aujourd'hui, ce défaut russe sur sa dette étrangère. Merci beaucoup de nous avoir accompagné, le président de Mescart Financial Services. Wall Street en repli après avoir bien fortement progressé la semaine dernière. Le S&P avait pris plus de 6% aujourd'hui, moins 0,18%. C'est pas méchant, petite baisse comme en Europe. D'ailleurs, le CAC 40 perd 0,47%.
BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs.
Chaque jour vers 16h20, partageons nos idées de valeurs socialement responsables. C'est l'ISR à la une. On essaye de vous aider à en récolter un maximum de fruits, vous aussi, à travers un portefeuille dédié d'ailleurs. Notre portefeuille BFM Responsable, une quinzaine de valeurs présentes dans ce portefeuille virtuel, toutes éligibles aux critères de l'ISR. Et l'un de nos trois co-gérants est à nos côtés, c'est Alban Préaubert. Bonjour Alban.
Bonjour.
Pour Sycomore Asset Management, on va parler des performances du portefeuille et d'un nouvel entrant. Dans un instant, ouais, vous choisissez de faire entrer un nouveau groupe, un nouveau titre dans ce portefeuille BFM Responsable. Juste avant, quand même, ce qui s'est passé ce week-end et cette tribune des trois grands énergéticiens français, une tribune commune des patrons d'Engie, EDF et Total Energy pour appeler à plus de sobriété, à baisser notre consommation d'énergie. C'est-à-dire que nos trois champions de l'énergie français sont prêts à sacrifier une partie de leur chiffre d'affaires pour répondre aux enjeux du moment, qu'ils soient environnementaux, mais aussi les enjeux liés à la guerre en Ukraine. Si on ne baisse pas notre consommation d'énergie, disent-ils, on va vers une pénurie et donc des troubles sociaux. Que vous inspire cette tribune, vous, investisseurs responsables ?
Oui, c'est vrai que c'est un message responsable justement de la part de ces entreprises. On est face à une équation qu'il est difficile, voire impossible de résoudre à l'heure actuelle. On manque d'énergie avec la Russie qui réduit ses livraisons de gaz. On l'a vu en France, on l'a vu avant ça en Allemagne, en Italie. Le robinet est carrément coupé dans certains pays comme la Finlande, la Bulgarie, la Pologne. On a aussi un début d'année où il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de sécheresse en Italie, par exemple, où l'hydroélectricité, du coup, a été très faible. Donc, on manque d'énergie et il faut, pour affronter l'hiver prochain, cet été, ça devrait passer, mais l'hiver prochain, il faut des stocks de gaz et donc il faut réduire la consommation d'énergie. Et ça, c'est parfaitement cohérent avec le plan Repower EU qui a été mis en œuvre, annoncé il y a un mois, avec plusieurs volets, donc l'accélération des investissements dans les énergies renouvelables, l'accélération des investissements dans l'efficacité énergétique, des nouvelles sources de diversification d'approvisionnement au gaz, mais ça prend du temps et du coup, aujourd'hui, on est dans un contexte où finalement, c'est très paradoxal, mais on est même obligé de relancer des centrales charbon en France peut-être, avec la centrale en Moselle, en Allemagne, c'est confirmé, et donc on a un peu l'impression d'être dans le film Don't Look Up sur Netflix, c'est un peu cette métaphore de l'inaction face au changement climatique, la planète va mal, mais en même temps, on est dans un contexte où, sans le gaz russe à court terme, on a du mal à faire face. Et l'Allemagne, d'ailleurs, a mis en place un plan d'urgence. On est au deuxième niveau. Et au troisième niveau, qui va probablement arriver cet hiver, il risque d'y avoir des rationnements entre les particuliers, l'administration et l'industrie. Et peut-être que certaines industries non prioritaires auront du mal à avoir ses besoins en énergie.
Elles pourraient ne plus pouvoir produire la nuit, par exemple.
Oui.
Et la sobriété qui entre dans le vocabulaire de nos géants de l'énergie français, des entreprises cotées, des géants du CAC 40 qui appellent à plus de sobriété, c'est quand même pas tous les jours. Et en même temps, certaines voix, on pense à Vincent Auriac pour Axilia, disent attention, c'est bien de voir des grandes entreprises cotées appeler comme ça à la sobriété, sauf que ces mêmes entreprises, Total Energy, EDF et Engie, aux États-Unis, au contraire, freinent sur l'adoption du scope 3 dans le reporting des émissions carbone. C'est-à-dire que, d'une part, pour la France, ils appellent à modérer notre consommation, mais aux États-Unis, leur stratégie est exactement inverse. Il y a un souci là-dessus encore ?
Oui, c'est sûr que cette transition énergétique qui est initiée par ces grands acteurs, Engie, EDF ou Total Energy, elle doit s'accélérer, puisque aujourd'hui, ces acteurs Alors, c'est vrai que là, on parle de scopes. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces scopes.
On peut expliquer. Profitons-en.
Sur le scope 1, c'est vraiment les émissions directement liées à la fabrication d'un produit ou d'un service. Sur le scope 2, on y ajoute les émissions qui sont liées aux consommations énergétiques pour fabriquer ce produit. Et puis, dans un scope 3, on est sur un périmètre beaucoup plus large, ce qui intègre à la fois l'amont, avec les matières premières, la supply chain, les émissions liées à la supply chain, mais également l'aval, avec l'utilisation des produits et la fin de vie aussi des produits. Et sur beaucoup de secteurs, évidemment, il ne faut pas se contenter de regarder le scope 1 et le scope 2, et il faut évidemment regarder le scope 3.
Scope 3, c'est à peu près 80% des émissions de CO2, en fait.
Oui, et surtout dans certains secteurs. Enfin, si on occulte le scope 3 pour Total Energy, tous les carburants qui sont brûlés ne vont pas être intégrés dans l'empreinte carbone qui sera publiée par Total Energy. Et évidemment, ça aura un impact très conséquent. Si on compare par exemple Ferrari et Alstom, on sait que l'empreinte carbone publiée par Ferrari est bien meilleure que celle d'Alstom. Or, évidemment, par kilomètre parcouru, par passager, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont bien moindres si on voyage en train. Donc il faut être vraiment très prudent avec ces mesures environnementales qui sont souvent fournies par les entreprises. Voilà, à titre d'exemple, chez Sycomore, on travaille sur une autre métrique alternative, la NEC, Net Environmental Contribution, qui permet justement d'intégrer l'ensemble des cycles de vie d'un même produit.
D'accord. Bah voilà, c'est intéressant hein, d'analyser, de passer au crible aussi cet appel, cette tribune commune des trois grands énergéticiens français qui d'habitude se font la guerre et qui là signent cette tribune commune pour plus de modération dans notre consommation énergétique en France, mais qui parallèlement aux États-Unis, pousse à garder le scope 3 exclu des mesures d'empreinte carbone. Pendant ce temps, notre portefeuille BFM responsable, la semaine dernière, un peu moins progressé que le reste du marché. C'est la deuxième semaine consécutive de sous-performance dans le rebond. C'est plus compliqué pour notre thématique socialement responsable en
ce moment. Oui, c'est vrai que le portefeuille avait plutôt bien résisté depuis le début d'année, même si c'est toujours évidemment très décevant d'afficher des performances aussi négatives, mais le contexte de marché, on le sait, très compliqué. Il y a eu un petit rebond quand même la semaine dernière des valeurs de croissance, notamment le luxe, hein, avec au sein du CAC 40, LVMH, Kering ou L'Oréal, hein, qui ont affiché des très belles performances et des valeurs qui sont absentes du portefeuille. On avait un équilibre entre valeurs un peu cycliques et à valeurs de croissance au sein du portefeuille, avec certaines valeurs de croissance comme HelloFresh par exemple qui ont fait un très beau rebond.
Oui. Mais enfin.
<C'est vrai. rire> Mais au final, on avait quand même un petit biais un peu défensif qui a été plutôt favorable sur le début d'année, mais plutôt négatif au cours des deux dernières semaines.
Et donc, dans cette nouvelle phase de marché qui s'ouvre éventuellement, on s'interroge sur l'équilibre de votre portefeuille, le profil des valeurs qu'il compose. Et c'est dans ce contexte, dans ce moment, que vous choisissez d'en modifier la composition. Vous venez nous annoncer l'intégration, l'entrée de Schneider Electric dans le portefeuille BFM Responsable.
Oui, effectivement. Alors, Schneider Electric, c'est une valeur qu'on a toujours appréciée. On l'avait eu dans ce portefeuille responsable il y a quelques temps. On l'avait sorti sur des raisons de valorisation. On n'avait plus d'upside dans nos modèles. C'est le titre qui a le plus corrigé, je crois, depuis le début d'année au sein du CAC 40, hein, moins 30%. Alors que les fondamentaux sont toujours évidemment excellents, digitalisation des bâtiments, efficacité énergétique, ils sont vraiment sur des tendances extrêmement porteuses à long terme. D'ailleurs, le début d'année a été très solide, avec un premier trimestre affichant une croissance de 10% pour le groupe, avec à la fois un effet prix qui montre un gros pricing power de la part de Schneider Electric, mais également des volumes en croissance. Alors oui, il y a des risques hein, sur un ralentissement de la construction, les confinements en Chine qui représentent une part importante du chiffre d'affaires pour Schneider Electric, la cession également des activités russes avec un impairment, un amortissement de goodwill, mais néanmoins, voilà, les fondamentaux à long terme restent excellents et aujourd'hui, on est de retour sur des niveaux de valorisation très raisonnables, à 16 fois le PE sur les résultats 2022. Donc, ça nous semble être un très bon timing pour retourner sur Schneider Electric.
C'est ça, être investisseur responsable n'empêche pas d'être opportuniste.
Ah oui, oui bien sûr.
Au contraire.
Il faut savoir prendre des profits quand la valorisation n'est plus raisonnable, mais continuer à garder ces valeurs qu'on apprécie, qui ont vraiment des démarches ESG très avancées dans le radar et savoir les réactiver au bon moment.
Schneider Electric vient donc compléter ce portefeuille BFM responsable. Il en faisait partie hein, il y a quelques mois, puis vous l'aviez vendu à l'époque, le titre valait 30% plus qu'aujourd'hui. Donc,
oui,
c'était un bon timing quand on compare au cours d'aujourd'hui.
On espère que effectivement le timing
sera aussi bon.
Sera aussi bon cette fois-ci et qu'on va réussir à prendre des profits sur Schneider une deuxième fois.
Voilà, cette annonce donc, cette composition nouvelle, renouvelée du portefeuille BFM responsable et à l'orée de l'été, Schneider Electric vient l'intégrer. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci.
Alban Préaubert, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille BFM responsable pour Sycomore AM avec Guillaume Chaloin pour Mescart Hamilton et Frédéric Rosier pour Mirabeau. Bon retour. À très bientôt, Alban. Le CAC 40, toujours en petite baisse dans un instant. Zoom sur les cryptos. Le club BFM Crypto vous ouvre ses portes dans deux minutes, juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Chaque jour, aux alentours de 16h30, le club BFM Crypto, nos experts vous accompagnent pour essayer de vous éclairer sur cette nouvelle forme de finance qui tente d'émerger. Raphaël Bloch avec nous, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Bonjour Raphaël.
Bonjour Guillaume.
Et bienvenue. John Karp avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour John.
Bonjour Guillaume.
Coproducteur du podcast NFT Morning et co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement Crypto Art. Vous nous direz tout à l'heure si les NFT souffrent plus ou moins que les cryptos en ce moment. Quel impact la chute des cryptos a-t-elle sur la valorisation des NFT? Quel profil de NFT s'en sort aussi? On va voir si ce qui se passe permet de faire ressortir, rejaillir par le haut les meilleurs projets et un profil de NFT plus prometteur. Vincent Bois aussi avec nous pour IG. Bonjour Vincent. Analyse, vous êtes là Vincent? On essaie de joindre Vincent Bois, qu'on va essayer de rattraper en vol. Est-ce que vous êtes là, Vincent? Vincent,
oui,
est là. Et on est ravis de vous retrouver, Vincent. Vous savez, c'est comme l'esprit, les esprits qu'on invoque parfois quand on est jeune. Esprit, es-tu là? Vincent, êtes-vous là? Vous êtes là. La voix se manifeste. Vincent, du côté des cours des cryptos, quel potentiel pour la suite désormais? Est-ce que le point bas est derrière?
Alors, pour le moment, c'est difficile à dire et ça paraît peu probable, en tout cas selon moi. C'est vrai que la semaine dernière, on en parlait déjà et on est revenu à quelques dollars près sur les mêmes niveaux que lundi dernier. Donc, on a eu ce rebond finalement qui s'est un peu matérialisé avec les indices américains. On a vu ce rebond avec Jérôme Powell et le Bitcoin et les crypto-monnaies en ont profité. Mais on sent le manque d'engouement finalement. Il n'y a pas eu de nouvelle accélération. On parlait des 22 500 dollars qui est un niveau technique à court terme qui n'a pas été dépassé. Et donc, ce manque d'engouement nous amène quand même à penser que on est loin du retour aussi. On est loin d'avoir trouvé selon moi, le point bas, même si on le voit, c'est une tentative de consolidation. On a sur les marchés traditionnels plusieurs données qui pourraient permettre justement de poursuivre un peu ce rebond, même s'il est difficile aujourd'hui, et donc permettre au Bitcoin et aux crypto-monnaies de tenter de poursuivre le rebond. Mais il y a d'autres risques, notamment sur le marché des cryptos, avec la régulation où en Europe on devrait avoir d'autres nouvelles à court terme, ou encore les problèmes de liquidité de certains acteurs qui pourraient se poursuivre, voire s'accélérer. Et donc attention tout de même, ce rebond qui semble vouloir se maintenir du fait des indices américains qui pourraient tenir un moment, nous sommes toujours sur le bear market et nous sommes toujours, selon moi, dans un marché baissier qui pourrait nous conduire sur des niveaux plus bas. Ici, le test, ce sera bien sûr de revenir sur les 17 000 si on venait à casser les 19 800, ce niveau psychologique de l'ancien plus haut historique de 2017. Mais on l'a vu, ces niveaux, ces rebonds finalement sur les 25 500 que l'on avait vu n'avaient pas tenu et avaient décroché. Donc voilà, pour répondre simplement, peut-être une consolidation voire une tentative de maintien un peu plus importante au-delà des 20 000, sous les 19 800, attention à la baisse et pour moi on n'est pas sur le point bas encore.
Et sur Ether, quels sont les seuils techniques à regarder, à surveiller?
Alors sur Ether également, on est venu finalement bloqué sur les 1250, ce niveau qu'on regardait depuis plusieurs séances. On est en dessous, je parlais tout à l'heure du plus haut historique de 2017, sur le Bitcoin. On est un peu au-dessus sur le Bitcoin. Sur l'Ether, on est bien en dessous. C'était les 1420 dollars. Donc, peu de niveaux techniques qui peuvent tenir la tendance. Ici, les 1180-90, donc on est actuellement dessus, est un niveau moyen terme que l'on surveille. Mais on pourrait voir également une forte accélération sous ce niveau. Les 1000, les 850 une nouvelle fois. Mais attention, on est sous ce niveau psychologique de l'ancien plus haut historique. Donc, pour moi, de la même façon, attention au risque. Si on ne se maintient pas au-delà des 1100, 1190, 1180, le risque est d'accélérer à la baisse, de revenir sur le plus bas récent qui est donc sur les 850, voire de le casser. Bien entendu, ce sera également dans le sillage du Bitcoin, dans le sillage des crypto-monnaies. Et donc, probablement, si nous avons toujours une poursuite du rebond, notamment sur les indices américains.
Actuellement, Ether, 1180 dollars, Bitcoin, 20 669 dollars. On rôde toujours quand même plutôt proche des points bas récents. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Merci.
Vincent Bois, analyste technique pour IG. Et dans ce contexte, Raphaël, la finance traditionnelle va tenter ou semble vouloir tenter de prendre sa revanche sur la finance crypto. En tout cas, c'est l'une des grosses informations des derniers jours qui suscite pas mal de débats. La star de Wall Street, Goldman Sachs, pourrait racheter les avoirs de Celsius.
Ouais, exactement. Alors bon, c'est une info qui n'a pas encore été officiellement confirmée, mais il y a pas mal de sources quand même qui vont dans le même sens. Ce sont nos confrères de CoinDesk qui ont sorti l'info en premier. Et effectivement, apparemment, donc Goldman Sachs, l'une des banques les plus puissantes du monde, l'une des stars de Wall Street, est en train de lever des fonds auprès de plusieurs acteurs crypto, donc plutôt des fonds crypto, pour pouvoir racheter les actifs de Celsius, qui sont évidemment très décotés avec la crise actuelle et le gel de ses avoirs. Ce qui est, à la fois intéressant et intriguant dans cette opération, c'est que on peut se dire qu'est-ce que Goldman Sachs vient faire dans une telle galère, parce que on voit bien que Celsius est en grande difficulté. Ils ont pris Citigroup pour les aider à restructurer la société. Maintenant, il y a Alvarez Marsal, qui est un acteur assez important au niveau international. En fait, c'est un cabinet de conseil avec des avocats que peu de gens connaissent, mais l'une de leurs spécialités, c'est tout ce qui est justement liquidation des actifs et fin de l'activité. Donc voilà, on peut se dire que quand on fait appel à ce genre de cabinet, c'est parce qu'on a envie de remonter, mais aussi peut-être parce que on n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Donc voilà, on peut se demander ce que Goldman Sachs fait là-dedans. On va voir dans les jours qui viennent ce que ça va donner.
Oui, tout à l'heure, Grégory Volokhin était avec nous et on lui posait la même question, que vient faire Goldman Sachs? Et sa réponse était, mais ils viennent faire leur business habituel, ils cherchent l'argent là où il est.
Alors effectivement, l'une des pistes privilégiées quand on pense à Goldman Sachs sur ce dossier, c'est de se dire, il y a quand même de beaux actifs. Donc si Goldman Sachs met la main dessus pour un montant qui est évalué aux alentours de 2 milliards de dollars, si les marchés remontent et que l'activité reprend, potentiellement ils pourront, comme ça se fait un peu sur la dette, c'est-à-dire que vous achetez une dette qui est décotée, donc vous prenez un risque parce que potentiellement elle ne vaudra quasiment plus rien, mais par contre, si jamais ça remonte et que vous arrivez à restructurer tout ça, vous faites une coquette plus-value. Goldman Sachs l'a déjà fait dans plein de dossiers. Est-ce que, ils vont le faire dans la crypto? Donc ça, c'est la première option. Et puis la deuxième, c'est de se dire que Goldman Sachs est quand même l'une des banques les plus actives dans cet écosystème et que peut-être, c'est pour eux une manière de mettre un pied de plus dans la finance. Alors décentralisée, Celsius n'est pas un acteur n'est pas un acteur de finance décentralisée, c'est un acteur de finance centralisée. Mais voilà, c'est une plateforme quand même qui compte dans l'écosystème, qui comptait beaucoup avant qu'elle chute. Et donc pour eux, c'est potentiellement l'occasion de mettre vraiment un pied dans cet écosystème.
John?
Non, mais je me posais une question par rapport à ça, justement, c'est la perception de la communauté par rapport à ce type d'acquisition. Parce que on sait quand même que l'univers crypto s'est bâti un peu en opposition à l'univers bancaire. Et du coup, est-ce que c'est perçu de manière plutôt positive ou négative?
Goldman Sachs, quand même.
Ouais, alors après, non, mais c'est une très bonne question. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que actuellement, la préoccupation de la communauté crypto et notamment des clients de Celsius, c'est avant tout quand même de pouvoir récupérer ses fonds et globalement, de retrouver une activité normale. Après, c'est évident, et d'ailleurs, on le voit, on l'a vu à l'époque avec JP Morgan ou d'autres grandes banques américaines. Quand elle s'intéresse à ces sujets, il y a effectivement une sorte de méfiance. Il y a une réaction presque épidermique en se disant « Attendez, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la crypto ?» Mais on le voit, ça fait maintenant 2-3 ans que de plus en plus d'acteurs s'intéressent. En Europe aussi, on voit des banques qui s'intéressent à ces sujets parce que, elles savent que ça fait aussi partie de leur futur et que si elles passent à côté, elles prennent le risque de louper en fait une partie du futur de la finance.
C'est ça, parce que je le vois aussi dans l'univers des NFT, ce marché qui se contracte donne lieu à pas mal d'acquisitions.
Ouais.
Et il y en a une qui a été assez frappante la semaine dernière, c'est la plateforme qui s'appelle NonOrigins, qui est en fait une des plateformes historiques de vente et d'achat de art NFT, qui s'est fait racheter par eBay.
Ouais.
Et là, pour le coup, il y a eu des énormes levées de boucliers dans cet univers décentralisé, parce qu'il y a certains acteurs, il y a une sorte d'univers qui se construit un petit peu contre les GAFAM un peu dans cet univers, contre la captation de la valeur par des gros acteurs. Et donc, il y a pas mal d'artistes ou de personnes qui ont brûlé leurs œuvres sur NonOrigin en forme de contestation. Alors, brûler, c'est symbolique, mais en effet, qui les ont détruites pour marquer leur mécontentement, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je me pose ces questions un peu ce débat et cette question, parce que je pense qu'on va avoir d'autres acquisitions qui vont arriver de plus en plus avec ce marché qui se contracte et beaucoup d'acteurs comme Goldman. Enfin, moi, je pencherais plutôt peut-être vers le deuxième point, même si Celsius est un acteur.
C'est pas le plus beau dossier, voilà. C'est-à-dire que on peut se dire aujourd'hui, Celsius, c'est pas forcément la plus belle opportunité, enfin, si on se projette à long terme. Mais en même temps, c'est vrai que pour eux, c'est peut-être une manière justement de se faire un peu la main sur ce sujet.
Et alors, je rebondis sur ce que disait John. Celsius n'est pas, loin s'en faut, la seule société de l'écosystème en difficulté. Il y a aussi BlockFi. La plateforme de lending vient de bénéficier d'un prêt de la part de qui ? De la part du géant FTX, ouais. Qui ah, pourrait donc prendre une participation dans BlockFi.
Ouais, ouais. Ouais. Bah, effectivement, c'est-à-dire que, et John l'a très bien rappelé, c'est-à-dire que dans une période où le marché se contracte, il y a évidemment plein d'opportunités et on va avoir, que ce soit de la part d'acteurs traditionnels ou justement d'acteurs de la crypto mais dominants, bien des opérations très opportunistes, en se disant bon bah voilà, là il y a des acteurs d'une part qu'on ne peut pas se permettre de laisser tomber parce qu'on en parlait la dernière fois, il y a le risque de l'effet domino, c'est-à-dire que si vous avez trop d'acteurs qui tous en se tenant tombent, et bah à la fin toute la chaîne craque. Donc il y a déjà ce premier élément, et le deuxième c'est de se dire quand vous êtes FTX, bon bah voilà, vous êtes l'une des trois plus grosses plateformes d'échange de la planète, hein, avec Binance et Coinbase. Et donc là, vous avez l'opportunité d'aller chercher à droite à gauche des entreprises, là en l'occurrence des plateformes de lending, qui sont en difficulté, qui ont besoin de fonds. Et donc, vous pouvez rentrer pour pas cher à leur capital et potentiellement restructurer un peu tout ça, récupérer les équipes, la techno, la clientèle. Et puis, vous continuez d'asseoir votre domination sur le marché.
Oui, et ça veut dire aussi que la communauté crypto qui s'est construite, en opposition parfois au système traditionnel, dans une forme de quête de pureté, est en train d'apprendre peut-être aussi le sens du compromis. Le compromis, c'est pas forcément compromission. Si on veut parvenir à continuer de vivre, parfois il faut savoir aussi accepter de faire entrer le ver dans le fruit, Raphaël.
Ouais. Non, mais ce qui est sûr, et je pense que là, avec John là-dessus, on sera d'accord, c'est qu'en période de hausse, finalement, vous avez toutes les libertés. Enfin, c'est-à-dire que tous les projets ont les moyens, l'attraction pour finalement faire des choix, j'allais dire, souverains. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres de leur destin. Donc, s'ils veulent faire telle ou telle activité, ils peuvent le faire. Ce qui est plus compliqué en période de baisse, c'est que vous n'avez plus cette latitude et donc vous avez des projets qui même portent une philosophie totalement décentralisée qui ne veulent pas être récupérés, qui vont malheureusement peut-être pour eux être rachetés ou basculer dans le giron d'un plus gros acteur parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de leur autonomie. Alors après on verra ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, mais clairement en période de baisse c'est toujours compliqué quand vous êtes, on va dire, le petit ou le moyen player du marché.
Alors, c'est très intéressant, le sujet est très intéressant. Est-ce le début de la revanche de la finance traditionnelle sur les promesses qu'offrait ou qu'offre toujours la finance crypto ? On voit que les banquiers centraux sont en train de resserrer leur politique monétaire, que les liquidités se raréfient, commencent ou vont commencer à se raréfier, si bien que pour Bitcoin, c'est une forme de challenge, de concurrence qui vient s'ajouter. La promesse de Bitcoin, c'est avec nous, et en investissant dans Bitcoin, vous investissez dans un actif rare, contrairement aux monnaies traditionnelles. Là, on voit que les banquiers centraux sont en train de raréfier leur propre monnaie. Et donc, c'est une partie de la promesse de Bitcoin qui est mise à mal. Est-ce que ça va aussi pousser les acteurs de cet écosystème, et particulièrement Bitcoin, proposer une valorisation liée à l'usage, à la technologie qu'il y a derrière, plus qu'à cette promesse de monnaie rare et donc une forme d'or. Voilà, je le formule très mal, mais est-ce que ça va amener ces acteurs-là à transformer leur promesse
On a une demi-heure ou pas
Que les banquiers centraux sont en train de raréfier leur propre monnaie.
Non, mais il y a évidemment... votre question est...
Elle est très mal formulée, suis désolé.
Non, mais pas du tout, parce qu'en réalité, en fait, elle pose vraiment la question du paradigme dans lequel on évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est inédite à tout point de vue. Elle est inédite d'un point de vue monétaire, d'un point de vue économique et d'un point de vue technologique. Et donc, on va vivre, mais c'est aussi ça qui est passionnant et qu'il faut raconter, c'est dans les mois et les années qui viennent, des transformations considérables. On voit déjà que le choix des banques centrales, je pense notamment à la Fed, de remonter les taux, provoque un débat en se disant « Attendez, c'est très bien, on va lutter contre l'inflation, mais vous êtes quasiment sûr d'avoir une récession ». Donc déjà, ce point-là, dans les mois qui viennent, va être énormément discuté. Et puis après, effectivement, quand on voit tout ce qui se passe dans le secteur des cryptos, il y a la question de Bitcoin, mais il y a aussi, John connaît très bien les NFT. Aujourd'hui, les NFT, il y a mille manières d'appréhender le sujet. On verra quelle direction le secteur va prendre, mais on voit que on parlait il y a encore 6 mois énormément de tout ce qui est art, gaming. Aujourd'hui, on commence à se dire sur l'utilité, dans quelle direction on va aller. Enfin, je veux dire, maintenant, on a plein de collections d'NFT, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, on voit qu'aujourd'hui, des projets commencent à dire, il va y avoir tel ou tel usage. Donc, les choses évoluent très vite. Bon, il y aura plein de choses hein, dans les mois qui viennent à raconter à ce niveau-là.
Oui, mais c'est peut-être plus la promesse technologique que les investisseurs priceront que la promesse monétaire dans un environnement plus challenging pour le Bitcoin, dans la mesure où la promesse monétaire de rareté du Bitcoin se trouve challengée par une Fed qui raréfie sa monnaie.
Ouais. Après, moi, j'ai du mal à croire qu'on va vraiment rentrer. Non, mais j'ai du mal à croire qu'on va vraiment rentrer dans une période où justement la monnaie des banques centrales va se raréfier.
C'est ça.
Parce que encore une fois, il y a un vrai sujet d'inflation, mais ça va être compliqué de gérer cette inflation sans provoquer une gigantesque récession.
Ouais. Bon, on va continuer d'en parler, on aura mille fois l'occasion. Vous savez qu'on en parle tous les jours sur BFM Business, les banques centrales, bien sûr. Oui, elles sont en train de commencer à raréfier leur liquidité, à monter les taux, mais ce mouvement pourrait peut-être assez vite s'arrêter aussi. On aura l'occasion d'y revenir et puis on en reparlera d'ailleurs dans 10 minutes avec nos experts des marchés financiers traditionnels. Dans l'univers des NFT, John Karp, hein, qui nous accompagne pour son podcast aussi, NFT Morning. Est-ce que les performances des NFT souffrent de la baisse des cryptoactifs? Est-ce que vous voyez plus de sous-performances dans l'univers des NFT d'ailleurs que dans les cryptoactifs, les crypto-monnaies?
En fait, il faut comprendre que les NFT, c'est un univers extrêmement jeune d'un point de vue investissement, notamment. On peut dater ça, peut-être, on commence à suivre, on va dire, les mouvements de NFT depuis 2-3 ans. On a eu des volumes significatifs depuis début 2021. Donc, c'est vrai qu'on manque un peu d'historique sur les NFT. Et donc, il y a une question à laquelle on n'avait pas de réponse, mais qu'on se posait, qu'on observait toujours, c'était la corrélation, finalement, entre les crypto-monnaies et les NFT. Parce qu'on se dit, finalement, quand j'achète un NFT... J'achète de l'art, j'achète du gaming, j'achète un sous-jacent finalement qui n'est pas censé avoir de lien avec une crypto-monnaie. C'est vrai que j'utilise l'Ethereum notamment, mais plein d'autres crypto-monnaies éventuellement pour pouvoir faire mes achats. Mais bon, il ne devrait pas y avoir de corrélation directe. Et c'est vrai qu'en fait, jusqu'au crash, on va dire, il y avait une forme de courbe inversée en quelque sorte. Ça veut dire que quand l'Ethereum baissait un petit peu, le prix des NFT avait plutôt tendance à augmenter. Comme si justement on avait de l'argent pas cher qu'on pouvait se permettre justement d'investir dans les NFT. Et si on regarde souvent d'ailleurs, les hausses de NFT ont souvent préannoncé des hausses d'Ethereum. Comme si finalement, à un moment donné, les NFT ils stimulaient un peu le volume de l'Ethereum. Alors j'ai pas cette notion. Donc on avait cette décorrélation. Par contre là, très clairement, quand tout s'est écroulé, notamment depuis le crash Luna, on va dire, les NFT ont suivi le mouvement de panique général de manière même accentuée au début. Ça veut dire que non seulement les prix baissaient, parce que l'Ethereum, j'ai un asset qui vaut 50 Ethereum, déjà juste le fait que l'Ether baisse, il va baisser. Mais en plus de ça, ils avaient tendance à se décoter très rapidement, donc à passer à 40, à passer à 35. Et dans la mesure où en plus c'est un marché... pour le coup, relativement illiquide. Ça veut dire que concrètement, c'est vrai que c'est pas comme des cryptos qu'on on peut le vendre dans l'instant. Là, c'est un NFT, quand vous possédez un Ape, par exemple, vous le mettez sur une place de marché, vous le listez à un certain prix, et puis il y a un acheteur ou il n'y a pas d'acheteur. Et donc, du coup, vous pouvez vite, pour peu qu'il n'y ait pas de volume sur ce bien-là pendant 24 heures, tout le monde peut très vite paniquer, finalement. Et donc là, ça peut, souvent, quand un volume baisse très fortement, ça annonce une chute du prix après. Donc, au départ, en effet, ça s'est creusé très vite. Par contre, ça a eu tendance à se rattraper. Une fois que la panique est passée, on a eu tendance à se rattraper. Et quand on distingue, on voit qu'il y a quand même plusieurs types de NFT et plusieurs types de baisses. Ça veut dire que, en effet, sur beaucoup, on va dire, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais la majorité des NFT, on a eu des baisses extrêmement violente.
Combien ?
Plus de 90% sur énormément de collections NFT. Donc oui, ça fait mal.
Ça fait pchit.
Ça fait mal. Par contre, sur les NFT blue chip, c'est comme ça qu'on les appelle, les blue chip, ça
les
veut dire
NFT.
Les collections qui sont reconnues comme comme historiques, comme des collections sur lesquelles on sait qu'elles sont, en fait, quand on dit blue chip, c'est qu'ils seront encore là dans 2, 3, 5, 10 ans. Alors, c'est une estimation populaire, c'est une estimation faite dans les forums. Les gens disent ça, c'est blue chip. Et puis, à un moment, il y a une forme de consensus qui définit ce qu'est blue chip. Je pense qu'on pourrait réavoir une émission pour dire qu'est-ce qu'un blue chip exactement. Mais pour faire simple, on a les top blue chip, qui sont assez chers d'ailleurs, qui sont les fameux Bored Ape Yacht Club ou les CryptoPunk. On a des blue chip intermédiaires qu'on va retrouver comme justement les artefacts qui sont fait racheter par Nike, il y en a d'autres, les World of Women, les les Cool Cat, enfin d'autres collections un peu intermédiaires ou celle de Gary V justement. Ouais. Et donc ces collections là ont une baisse moins importante. On est plutôt dans les alentours de 70%. Alors, je parle en calcul dollar.
Quand même.
Alors quand même,
70% quand même.
Quand même.
C'est moins que les autres, c'était 90.
Mais... C'est ça, quand même.
Mais on voit en effet deux profils de NFT, au moins deux profils de NFT diverger là. Dans la baisse, le marché a séparé le bon grain de livret dans l'univers NFT aussi.
C'est ça. Et en fait, quand on creuse même un peu plus, justement, quand l'Ethereum a touché là vraiment le son plus bas, il y a une dizaine de jours peut-être. Là, ça a un peu sonné justement le moment. On a vu les grandes collections blue chip remonter extrêmement vite avant même le retour du rebond d'Ethereum, notamment sur les CryptoPunk et sur les Bored Ape. Pour le coup, ils ont touché un plus bas et ils se sont rattrapés de quasiment 50% de valeur en l'espace de 2-3 jours. Donc on a eu ce sentiment à un moment donné, enfin que voilà, qu'on avait touché un moment, et l'Ethereum à ce moment-là, l'Ethereum continuait de baisser, mais en valeur dollar, ça stagnait voire ça augmentait.
Ouais.
Et donc c'est assez intéressant. Puis quand on creuse dans le détail.
Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Si on va encore plus dans le détail, dans cet univers NFT, pour essayer de voir ce qui a le moins souffert, est-ce qu'on peut aussi catégoriser par thématique? Il y a des NFT dans l'art, dans le vin, dans plein de trucs, dans plein de domaines. Est-ce que selon les thématiques aussi, les performances ont été divergentes?
Oui. Bah en fait, c'est assez flagrant. Et là, pour le coup, on a des grandes disparités. Juste pour rappel. Alors, moi, je me réfère à un site, c'est nonfungible.com, sur lequel je regarde les datas, mais il y en a d'autres. Mais en fait, ils ont quatre grandes catégories de NFT. Ils ont l'art, ils ont les collectibles, c'est vrai qu'ils ont représenté les plus gros des volumes. Les collectibles, justement, c'est ces fameuses collections, on va dire, de 10 000 personnages. Okay. Donc voilà, c'est ces fameux singes, ces cochons, ces chiens, ces chats, etc. Il y en a plein, et il y en a des biens, mais malgré tout. Il y a le gaming et les métaverses. Donc sur ces quatre grandes catégories. Ce qu'on observe, le secteur qui a le plus... En fait, là, je pense qu'on a joué un rôle de valeur refuge. Et quand on regarde, en fait, notamment en fait, ce que je regarde sur les volumes, c'est ça qui m'intéresse sur les volumes de vente. Les volumes se sont à peu près divisés par les volumes se sont divisés par deux depuis il y a 3 mois. D'accord. Donc on est passé à peu près à 800 millions mensuels de dollars échangés dans le monde du NFT.
Ok. Donc ça a diminué de moitié dans.
Ça a diminué de moitié peu près. Dans ces volumes là, il y a un volume qui est resté extrêmement stable, c'est celui de l'art. Ça veut dire que il y a eu une sorte de là on, comme si une vraie décorrélation par rapport au marché, un vrai intérêt en se disant justement un peu ce côté valeur refuge, que l'économie se porte bien ou se porte mal, finalement l'art restera l'art, les artistes clés auront quoi qu'il arrive une valeur historique, et donc alors ça c'est les je vous prends un peu des phrases que j'ai vu passer et ce qui se traduisent un peu dans les chiffres qui font en effet qu'il y a eu finalement une sorte de stagnation dans les volumes d'art et donc on va dire un intérêt maintenu dans cet univers-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, du gaming. Donc gaming, tous les nouveaux usages, c'est vrai, dont on parlait depuis quelques mois, notamment, alors il y avait cette notion, vous savez, de play to earn. Vous savez, c'est ces jeux qui vous garantissent un revenu si vous jouez. On va pas rentrer là-dessus, c'est un très grand débat, le play to earn, parce que pour le coup, on peut se poser des questions sur le niveau de pyramidal de structure de ces jeux. Mais en tout cas, donc ces jeux qui vous garantissent un certain revenu si vous jouez, là pour le coup, les volumes se sont effondrés de 90%. Donc là ça fait mal. Et puis pour le coup, quand les volumes s'effondrent de 90%, là je en termes de valeur, ça peut être... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de jeux qui sont arrivés pas loin de zéro, pour faire simple. Et donc, ensuite, on a d'autres valeurs, on va dire, intermédiaires, qui sont les collectibles et les métaverses, qui ont perdu entre 30 et 40% de volume. D'accord. Donc, qui sont, voilà, les projets un peu moyen terme, pour faire simple.
Mais ça signifie donc qu'il ne faut pas parler des NFT toujours au sens large, comme on a tendance à le faire, mais qu'à la faveur de cette crise, sont en train d'émerger de plus en plus des potentiels divergents dans cet univers des NFT, grands gagnants des NFT dans le monde de l'art. Et certains artistes en particulier ont vu la valeur des NFT plutôt bien résister aux conditions de marché.
En fait, oui. Justement, cette notion, c'est un mot qui ressort beaucoup, c'est le mot « blue chip ». Ouais. Donc on a aussi les blue chip artistes. Ça veut dire en fait ceux qui ont vraiment apporté leur pierre à l'histoire de l'art. Et donc quand vous regardez finalement, il y a des artistes, leur cote finalement baisse assez peu. Alors elle baisse quand même, mais elle se maintient. Donc c'est des artistes clés, on va dire, je vais en citer quelques-uns, mais Xcopy ou Beeple. Par exemple, la collection clé de Beeple, il a une collection que c'est le fameux, c'est assez politique, hein, mais politique is bullshit justement de Beeple. J'ai regardé, il se vend toujours aux alentours, enfin quand il se vend, mais c'est toujours aux alentours des 90 000 dollars ou 100 000 dollars. Ça reste des prix assez forts quand même.
Oui.
Donc c'est des choses, voilà, qui se maintiennent assez forts. Il y a aussi tout un mouvement qui tient énormément bien, qui se développe bien, c'est tout l'art génératif. Vous savez, l'art génératif, en fait, c'est des collections d'œuvres qui sont créées par ordinateur. Et donc, les artistes, on va dire, créent des algorithmes qui vont générer, avec en fonction de couleurs de palette, de formes, de manière de s'organiser, des œuvres générées par ordinateur. Et il y a un site de référence, en fait, dans cet univers qui s'appelle Artblocks, qui s'est spécialisé depuis maintenant 2 ans. Sur la création, ils sélectionnent des artistes qui créent des grandes collections d'art génératif certaines qui sont devenues assez iconiques, comme notamment il y en a une qui s'appelle le Chromie Squiggle par l'artiste Eric Snofro. Et donc, quand on le regarde, on peut rigoler, mais c'est une sorte de suite chromatique. D'accord. Et en fait, ce genre de choses en fait se maintiennent bien. Dans l'univers Tezos, il y a une autre plateforme qui s'appelle FXH qui se maintient très bien aussi.
Et donc, seuls les projets historiques s'en sont bien sortis là, dans les NFT, malgré le bear market. Il nous reste 30 secondes.
C'est ça. C'est plutôt les projets clés. Après, il y en a un dernier. Il y a des projets de bear market qui explosent. Il y en a un, juste pour le citer, c'est une collection qui s'appelle Goblin Towns. L'expression Goblin Towns aux États-Unis, ça veut dire on va tous finir à Goblin Towns, ça veut dire on va tous finir fauchés.
Ah bon.
Et donc, c'est des collections de bear market, on va dire, qui jouent sur la blague, justement, on est tous fauchés. Qui, pour certaines, ont un certain intérêt.
Ils prennent pas la vague, mais qui la surfent.
Exactement.
Un mot là-dessus, c'est...
Non, mais effectivement, ce qu'on observe dans l'industrie des NFT, un peu comparable à ce qu'on voit dans la crypto, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prime aux acteurs qui sont sur le marché depuis un peu plus longtemps et qui sont identifiés comme étant un peu plus, entre guillemets, légitimes.
Bon, tous les NFT ne sont pas morts, donc.
Non,
pas du tout.
Quel pourcentage de NFT a un grand avenir, d'après vous? Aller comme ça, s'il fallait se mouiller, John?
1%.
1%.
Je suis assez radical.
C'est beaucoup, il y a plein de projets.
Ouais, c'est déjà énorme. En fait, c'est déjà énorme.
Ouais. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être passés nous voir sur le plateau de BFM Business. John Karp, donc, coproducteur du podcast NFT Morning. Raphaël Bloch, cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale. Salut, messieurs. Bon retour. Dans un instant, la revanche de la finance traditionnelle. Nos experts de marché vont nous accompagner alors que le CAC 40 recule un petit peu moins 0,2%. Marc Toiti, dans un instant, sur BFM Business avec Christian Parizeau pour Alter Economics. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.